Nous terminons donc notre série de rencontres sur le thème « Des mains pour Christ » dans le cadre de cette étude qui nous a intéressés tout au long de la retraite, « Posséder son corps dans la sainteté ». Lisons un verset dans le livre de Job, au chapitre 37e et au verset 7e. Job 37, 7. Dieu met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Je reprends ce verset. Il est très important. Dieu met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Nous pourrions lire d'autres textes. En Jacques, maintenant, chapitre 4 et verset 8, Jacques dit ce qui suit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parmi les merveilles du corps humain, il y a la main. Oui, il y a la main. Un outil de chair et d'eau articulé, une mécanique vivante, et combien étonnante aux innombrables possibilités. Dans le verset lu tout à l'heure, en Job 37, verset 7, Dieu veut signifier que la seule main devrait persuader l'homme de son existence, devrait le persuader qu'il est une créature de Dieu. Dieu met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous les hommes se reconnaissent comme ses créatures. Merveille de création que la main, et dire que nous en avons deux. Vous est-il arrivé de remercier Dieu pour ces deux mains qu'il vous a données? Il se peut que ces mains vous fatiguent, plutôt se sont fatiguées, ont subi, elles aussi, l'érosion du temps, de l'âge. Mais il n'empêche que vous êtes dans l'espérance d'un corps nouveau, comme nous le disions ces soirées passées, au jour du retour du Christ. Et avec ce corps qui nous sera donné et qui ressemblera à celui du Christ, nous recevrons des mains toutes neuves pour le service auquel le Seigneur nous destinera. Eh bien, si vos mains étaient en train de se fatiguer, usées qu'elles sont, par l'érosion du temps, de l'âge, de la vie, vous êtes dans l'espérance de mains nouvelles, avec ce corps nouveau qui vous sera donné au jour où le Christ reviendra. Quelle bénédiction! Oui, parce que la main est un organe vivant, elle s'exprime. Il y a tout un langage de la main. Et si ce langage est muet, il n'en est pas moins précis, éloquent. Par exemple, la main, c'est dire oui et non. La main parle. La main peut caresser. Elle peut frapper. Elle peut brutaliser, elle peut bénir, travailler, prier, supplier, corriger. La main peut donner, prendre, tricher, voler, soigner, accueillir, apprécier, louer, etc. Nous pourrions ainsi poursuivre. Il y a tout un langage de la main. Et parce qu'il y a tout un langage de la main, la Bible nous exhorte à veiller sur nos mains pour posséder notre corps. dans la sainteté. Évidemment, la main n'agit jamais seule. Peut-être en dehors du réflexe, qui est l'expression parfois brutale de notre instinct de conservation, la main est commandée par la tête et le cœur. Elle n'agit pas seule. Par elle, nous pouvons donc communiquer. Il est par exemple très courant qu'on dise de quelqu'un de très généreux, par exemple, de quelqu'un de très serviable, qu'il a la main sur le... plutôt le cœur sur la main. Mais aussi la main sur le cœur. Mais plutôt le cœur sur la main, tout en le gardant, bien sûr, dans sa poitrine. Oui, de quelqu'un de très généreux, on a coutume de parler ainsi. S'il est des mains qui sont pleines d'amour, pleines d'affection, pleines de bonté, d'autres qui sont avares, qui ont les doigts crochus, tellement elles sont égoïstes. On dit généralement des Normands, en France, qu'ils ont les doigts crochus. Ma femme n'aime pas trop entendre cela parce qu'elle s'appelle le Normand. Mais elle est bretonne. Je le lui fais souvent remarquer quand je prêche sur Zaché. Je parle souvent des mains de Zaché. Ah, ces mains qui affectionnaient l'argent de façon toute particulière. Ces mains qui sans cesse en voulaient toujours. Ces mains aux doigts crochus. Du fait de son cœur, égoïste, avare, cupide. Oui, les mains ont tout un langage. Une seule poignée de mains peut en dire long sur notre personnalité. Alors, au sortir de cette réunion, mes amis, n'essayez pas dans votre chambre ou ailleurs d'essayer de vous travailler au niveau de vos mains pour savoir comment serrer la main de... vos frères et sœurs, non, ça doit couler de source, ça vient du cœur, hein. Mais la main peut exprimer toute notre personnalité, notre caractère. Une poignée de main peut être éloquente, plus éloquente qu'une parole, selon qu'elle peut être fraîche ou cordiale, chaleureuse, selon qu'elle peut être si ferme ou molle. Vous en avez qui, lorsqu'ils vous tendent leurs mains, vous donnent l'impression de vouloir l'abandonner dans la vôtre, littéralement. Oui, selon que la main peut être ferme ou molle, franche ou hésitante. Ainsi pourrions-nous poursuivre. Oui, la main révèle notre personnalité, notre caractère, par un simple serrement. Savez-vous que chez celui qui vous parle, le travail du Seigneur a commencé il y a maintenant un peu plus de 26 ans avec une poignée de main. Ah oui, cet homme qu'on m'a présenté et dont j'ai eu l'occasion ici de citer le nom, Ralph Challis, entre parenthèses, je vous invite à prier pour lui parce qu'il a été très malade ces derniers temps, mais le Seigneur, dans sa grâce, l'a relevé. Mais pensons néanmoins à lui. Eh bien, ce Challis qu'on m'a présenté il y a maintenant un peu plus de 26 ans sur un terrain de volley-ball en Algérie, par sa façon de me serrer la main, il avait laissé passer quelque chose que sur le moment je n'avais pas pu définir, quelque chose de rare, mais quelque chose qui m'a laissé penser qu'il avait quelque chose, quoi, je n'en savais rien à l'époque, que les autres autour de moi, couramment, n'avaient pas. En réalité, sa main, à cette époque, avait été pour moi pleine d'affection, d'accueil, de compréhension. Et c'est ce qui était passé de la part du Christ. Oui, la main peut être très éloquente. La Bible parle aussi de la main d'association, la main de communion. Oui, par une poignée de main, par nos mains, peut passer la réalité de lien fraternel entre nous, enfants de Dieu. Et c'est tellement vrai cela, mes amis, qu'il arrive souvent que lorsque deux personnes se fâchent, elles commencent par ne plus se serrer la pince, comme on dit en France. Oui, elles commencent par ne plus se serrer la main, se boudant l'une l'autre. La main peut être aussi, selon la parole de Dieu, paresseuse. Ecclésiaste 10:18. Elle peut être égoïste. Deutéronome 15:7. Tu ne fermeras point ta main à l'indigent. Tu ne fermeras point, tu seras généreux. En d'autres termes, la main peut aussi être dominatrice. Elle peut être de fer. Elle peut être dure. Mais elle peut être aussi esclave, prisonnière. En d'autres termes, la main peut exprimer, manifester ce qui est en nous, notre personnalité, notre caractère. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à sanctifier nos mains. Jacques nous dit, purifiez vos mains, pécheurs. Nous nous souvenons que c'est par la main qu'Ève prit du fruit défendu pour en manger. Bien sûr qu'elle avait déjà péché dans son âme, par cette intention déjà chez elle d'y goûter. La main n'a fait que traduire ce désir, cette convoitise qui s'était installée chez elle. La main peut traduire le péché en pensée, le péché de notre cœur, le péché de notre âme. Et ainsi, consommer le péché au niveau de nos pensées, comme nous l'avons vu le premier soir. Elle peut traduire, en quelque sorte, achever, consommer le geste. Et c'est la raison pour laquelle le Christ dit, « Si ta main droite, et il parle de la main droite, celle dont nous avons le plus souvent besoin, pour nous qui sommes droités. Les gauchers ne sont pas très nombreux généralement. Combien de vous ici à être gaucher? Levez la main pour voir. Vous êtes une toute petite minorité. Toute petite minorité. La plupart sont droités. Eh bien, Jésus parle de la main droite, de celle dont nous avons généralement le plus besoin, de celle qui sait travailler, de la main la plus habile. De celle dont nous avons donc le plus besoin, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et puis, jette-la, loin de toi. Ah, mes amis, si nous avions pris depuis le commencement ce texte à la lettre, où en serions-nous aujourd'hui? Où en serions-nous avec nos mains? C'est vous dire combien Jésus savait que la main peut pécher, pécher encore, pécher facilement. Zachée, je disais tout à l'heure, avait les doigts crochus. Il aimait l'argent. Cet argent lui avait pourri les mains. Cet argent qu'il gagnait la plupart du temps malhonnêtement lui avait sali les mains et surtout le cœur, la conscience. Mais lorsque le Christ est passé chez lui, il lui a donné d'autres mains, ces mains qui ne cessaient d'en vouloir, d'en ramasser. Maintenant, elles veulent donner, rendre, réparer. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est en Luc chapitre 19. Des versets 1 à 10. Ses mains, tout à coup, mais ne sont plus les mêmes. Le Christ lui a changé les mains parce qu'il lui a changé le cœur, parce qu'il lui a changé la conscience. Oui, ses mains, tout à coup, ont voulu donner. Voici, Seigneur, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quoi que ce soit à quelqu'un, je le lui rendrai 4 fois. Mais ça n'est pas possible. Il n'a plus les mêmes mains. parce qu'il n'a plus le même cœur. Et c'est ainsi que le Seigneur peut nous changer les mains. Nous donner des mains généreuses, des mains bénissantes, des mains accueillantes, des mains qui le servent, le glorifient. En réalité, pour que nous ayons des mains pour Christ, il nous faut regarder à ses mains, à ses mains à lui. Il faut que nous cachions les nôtres dans les siennes. Il faut que nos mains soient crucifiées dans les siennes, crucifiées quant au mal, quant au péché, quant au monde, pour ne servir qu'à son règne, qu'à sa gloire. À propos de ses mains, elles n'ont fait que du bien. Elles ont été tout d'abord des mains d'ouvriers, des mains cailleuses, des mains rugueuses, des mains habituées au travail. Et il se peut que vous ayez ce genre de mains et que vous vous en plaigniez. Sachez que le Christ a eu ce genre de mains-là. Et toutes les fois où j'ai l'occasion de parler en France en milieu ouvrier, je dis aux ouvriers, mes amis, le Seigneur a eu ce genre de mains que vous avez. Oui, il a travaillé de ses mains dans un premier temps. Et à tous les ouvriers, je dis aussi, la seule façon de vous réconcilier avec vos patrons est que vous regardiez au Christ qui, lui, a été patron et ouvrier à la fois. Il a été le patron des univers et des mondes. Tout est sorti de ses mains. Il est le patron de la vie. Mais il a été dans l'humble atelier de Nazareth, l'humble ouvrier aux mains rugueuses, aux mains cailleuses. Il a su ce que c'était que de travailler de ses mains durement. Il a donc été parfaitement patron et parfaitement ouvrier, de sorte que patron et ouvrier ne peuvent se rencontrer et s'entendre et se comprendre que dans le Christ. Oui, je dis aux ouvriers en France de prendre pour chef de leur syndicat le Christ, puisqu'il a été l'ouvrier de Nazareth et qu'il comprend, il sait ce que c'est que le travail. Ses mains ont donc été des mains d'ouvriers dans un premier temps, puis encore, elles étaient ouvertes à tous. Il n'a fait exception de personne. Elles ont touché, soigné, guéri tant de malades. Elles ont multiplié le pain à des foules affamées. Elles ont lavé les pieds des disciples. Ses mains étaient d'humbles mains. Traduisant ainsi ce qui était dans son cœur, son humilité, son amour pour ses disciples, des mains pleines d'affection à l'égard de ses disciples, qui allaient, quelques instants plus tard, l'abandonner, le trahir même, quand on pense à Judas, quand on pense que ses mains, les siennes, ont lavé les pieds du traître Judas. Quand on pense qu'elles ont lavé les pieds de Pierre, ces pieds qui, quelques instants plus tard, allaient le suivre, mais de loin. Oui, nous l'avons dit au cours des soirées passées, ces pieds du reniement, ces pieds de Pierre qui allaient le suivre de loin, qui allaient mettre une distance entre le Christ et eux, ces pieds-là, le Christ les a lavés de tout son amour, de toute son affection. Il a aussi lavé les pieds des autres disciples, ses disciples qui allaient l'abandonner au moment de son arrestation. Oui, ses mains ont accueilli des enfants venus à lui. Ses mains ont sorti Pierre des eaux tumultueuses du lac dans lesquelles il enfonçait dangereusement par incrédulité. Peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui, en ce moment, est en train d'enfoncer dans les eaux tumultueuses de la vie. Il peut saisir la main du Christ pour se sortir de là. Peut-être êtes-vous dans de grands tourments intérieurs, dans de grandes inquiétudes. Peut-être que tout chrétien que vous soyez, vous passez en ce moment par une crise. Vous êtes comme Pierre décroché par l'épreuve. Peut-être. Vous pourriez saisir cette main du Christ qu'il vous tend. Cette main percée pour vous. Cette main de grâce, cette main de bénédiction. Vous pourriez la saisir pour sortir de ces eaux qui menacent de vous engloutir. Ces mains ont aussi chassé les vendeurs du temple pour exercer la justice. Parce que si ces mains ont été des mains pleines de bonté, d'affection, de générosité, elles ont été également des mains qui ont exercé la justice. La justice chez le Christ a été inséparable de son amour, de sa miséricorde même. Ce que M. Maurice Ray nous a rappelé au cours de ses rencontres de l'après-midi. Oui, des mains pures, des mains innocentes, généreuses, accueillantes, toujours ouvertes. Pleine d'amour, de bonté, voilà ce qu'ont été ses mains à lui, et pour que nous ayons des mains qui quelque peu leur ressemblent, il nous faudrait les mettre dans les siennes, les cacher dans les siennes. Ces mains divines et saintes, ces mains qui n'avaient jamais péché, ces mains qui n'avaient jamais connu le péché, se sont pourtant crispées d'angoisse. Aux heures sombres de la croix, elles se sont tordues de douleur et de souffrance. Ces mains saintes, ces mains divines, ces mains pures, ces mains propres, elles s'étaient chargées de nos péchés, de notre corruption sur le calvaire. Elles ont été cruellement déchirées par les jugements de Dieu et par la violence et la haine des hommes. Elles ont été blessées à cause de nous. Oui, ces mains pures, ces mains saintes, ces mains pleines d'amour, d'affection, ont été blessées pour chacun d'entre nous. Elles se sont chargées de nos péchés. Ces mains ont été jugées comme si elles avaient été les nôtres. Quand je pense que les mains du Christ ont été blessées, châtiées, comme j'aurais dû l'être moi-même au niveau de mes mains, et non seulement de mes mains, mais aussi de mes pieds, de mon être tout entier. Le Christ a été déchiré sur la croix. Nous en avons fait une vraie loque humaine. Sur cette croix du Golgotha. Et non seulement ses mains ont été meurtries, mais encore son âme a été déchirée. Par cette séparation soudaine d'avec son Père, à cause de notre péché. Et tout cela pour nous rendre des mains pures, des mains nettes, des mains comme si elles n'avaient jamais péché. Est-ce possible, dites-vous? Mais oui, des consciences aussi, comme si elles n'avaient jamais péché. Oh, je ne suis pas de ceux qui pensent que lorsqu'on devient chrétien, on ne pêche plus. On n'a plus le goût à pécher. Parce que notre cœur a été changé par Christ. Nous affectionnons autre chose que tout ce que nous aimions auparavant. Mais il peut se faire que nous péchions encore en pensée, de nos mains, de nos pieds, de nos bouches, nous l'avons vu. Oui, cela peut se faire malheureusement. Tant que nous serons dans ces corps de péché, il nous arrivera de pécher. Mais il n'empêche que Christ est capable de nous donner des consciences pures,
nette, claire, comme le cristal. Vous avez du cristal chez vous?
Ah, vous savez, comme le cristal est pur, comme il est clair, le Christ est capable de nous rendre des consciences pures, claires, limpides, comme le cristal. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Et c'est
ce qui fait le secret de notre joie.
Oui, lorsque nos consciences ne nous accusent plus, c'est la fête au cœur, littéralement, c'est la fête au cœur. Quand nos mains ne nous accusent plus, mes amis, c'est aussi la fête au cœur, la fête du salut, la fête de la communion avec Christ. Oui, des mains comme si elles n'avaient jamais péché, parce que cachées dans les siennes, crucifiées dans les siennes, pour qu'elles ne servent qu'à sa gloire. Et c'est alors que nos mains vraiment changent et qu'elles plaisent au Christ. Mais certains ne veulent pas des mains du Christ, crucifiées sur la croix pour leur péché. Certains se lavent les mains, par exemple, comme Pilate, au savon de l'indifférence, au savon de la neutralité. Mes amis, le savon de l'indifférence n'ôte pas, ne nous rend pas des mains pures, des mains nettes. Certains se lavent aussi les mains au savon de leur conscience. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Laissez-moi donc passer mon chemin. On l'entend très souvent de nos jours. Et ainsi veulent-ils cela, se rendre les mains propres, les mains nettes en se lavant au savon de leur conscience. Mais la Bible dit que ça n'est pas parce que notre conscience ne nous accuse pas que nous sommes sans péché, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et puis, il faut le dire, la conscience est aujourd'hui dépassée par les événements. Elle est détraquée par le péché. Comment voulez-vous vous laver à ce savon-là? C'est Charles Péguy qui dit « Ô conscience, impénétrable à la grâce !» Souvent, ceux qui veulent absolument vivre selon leur conscience se rendent imperméables à la grâce de Dieu. Seulement, lorsque le Christ nous visite, lorsque nous lui ouvrons la porte de notre cœur, la première chose qu'il touche, c'est bien notre conscience. Il la remet en état de marche parce qu'elle ne marchait pas bien. Il la purifie de tout péché et cette conscience, une fois régénérée, une fois marchant correctement, peut nous garder du péché. Mais le chrétien, sa conscience régénérée, ne se lave pas à ce savon-là. Sa seule fontaine pour avoir des mains constamment propres et pures, c'est le calvaire. Il n'y a que là, au sang du Christ, que nos mains peuvent se purifier, que nos consciences peuvent être lavées, débarrassées totalement. Oui, qu'au sang du Christ, qu'à la source du calvaire. C'est là le seul endroit. D'autres veulent se laver les mains au savon de leur morale, de leur idéologie, ou je ne sais encore avec quel autre savon. Eh bien, la Bible dit que c'est vain, absolument vain, parce que toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement sale. Seul le sang du Christ peut purifier nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant et vrai. Seul le sang du Christ peut nous purifier de tout péché, sur confession des péchés. De tout son cœur, alors, nous en sommes purifiés, lavés, c'est la promesse du Christ. Et quel bonheur d'avoir des mains propres. Ça fait du bien, cela, au cœur, des mains propres. Des mains propres à servir le Christ aussi. C'est ainsi que Dieu peut nous rendre, le Christ peut nous rendre des mains généreuses, des mains qui savent donner, ça veut dire
recevoir n'a peut-être pas besoin de s'apprendre. Chez ces êtres que nous sommes, tellement égoïstes par nature. Encore qu'il y a toute une façon de savoir recevoir de Dieu ou des autres. Mais disons que donner, alors, cela... Eh bien, ses mains, tout à coup, apprennent à donner. Et Jésus dit, selon les Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » En sommes-nous vraiment persuadés? J'en veux pour preuve que c'est vrai. L'expérience d'une certaine Anne, mère de Samuel, en 1 Samuel 1 et 2. Oui, cette Anne, triste qu'elle était dans sa relation avec Dieu et avec son mari, cette Anne un jour, comprit que tout ce qu'elle devait demander à Dieu était à lui retourner, était à lui rendre, et non pas à garder pour elle-même. Quand elle a compris cela, il est dit que son visage ne fut plus le même, 1 Samuel 1, 18, et qu'elle se mit à manger, elle qui ne voulait plus rien entendre sur ce plan. Bloquée qu'elle avait été par son problème personnel avec Dieu et avec... en particulier cette Pénina qui l'a mortifiée d'une façon très méchante. Eh bien, ayant compris cela, elle fit enfin la bonne prière. Oui, la bonne prière que Dieu a exaucée. Que Dieu a exaucée, si tu me donnes un enfant mâle, eh bien, je te le retournerai. Je te le demande, ô Dieu, non pas pour moi, mais pour toi. Mes amis, c'est ainsi qu'on prie selon la volonté de Dieu. Ah, que de fois nous sommes égoïstes. Nos mains sont égoïstes jusque dans nos prières. Pour nous, toujours pour nous. Alors qu'il faut savoir demander pour lui. Ah, Seigneur, si tu mets dans mes bras un enfant mâle, je te le retournerai. Il sera... toute sa vie consacrée à toi. Et Anne aurait eu de bonnes raisons pour ne point rendre cet enfant qu'elle reçut pour finir, pour le rendre à Dieu, parce que à Silo, il se passait des choses absolument effrayantes, abominables. Elle le rendit, cet enfant, en faisant confiance à Dieu et non point aux hommes. Et qu'est-ce qui me fait dire plutôt que il y eut bien plus de joie chez Anne au moment où elle rendit cet enfant qu'au moment où elle le reçut. Et bien sûr, nous ne doutons pas qu'elle ait eu de grands moments de joie quand elle reçut de Dieu cet enfant tant désiré. Mais tant qu'elle eut cet enfant avec elle, chez elle, Anne ne s'était pas encore mise à chanter. C'est au moment où elle le rendit cet enfant qu'alors son cantique sortit de ses lèvres et de son cœur. C'est la preuve qu'elle connut à ce moment-là bien plus de joie que lorsqu'elle reçut cet enfant de la part de Dieu. Lorsqu'elle le rendit, elle se mit à chanter. Eh bien, Dieu voudrait que nous soyons de ces chrétiens-là qui savent lui rendre ce qu'il leur a donné. En chantant comme Anne, et non pas en faisant des têtes patibulaires. Triste. En chantant, il veut que nous sachions lui rendre ce qu'il nous a donné. Mais lui rendre, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire lui rendre au niveau de son œuvre, au niveau de son Église, d'une façon très pratique. Anne a été très pratique dans sa façon de rendre cet enfant au Seigneur. Elle est allée jusqu'à Silo pour le laisser là, en présence d'Élie, sacrificateur. Elle a été très pratique. Et vous croyez que c'est allé sans souffrir chez elle? cet enfant qu'elle avait tant souhaité, tant désiré. C'est aller sans souffrir, c'est aller sans larmes. Vous n'y pensez pas, j'en suis sûr. Je suis persuadé qu'Anne a dû rentrer chez elle en pleurant. Mais en pleurant, elle chantait, et en chantant, elle pleurait. C'est ce genre de chrétiens-là que Dieu veut trouver chez nous. Des chrétiens qui savent chanter en pleurant, et des chrétiens qui savent pleurer en chantant. Parce qu'ils sont généreux. Ils savent tout rendre à Dieu. Croyez que je quitte ma famille comme ça, joyeusement, souvent. Ah, je sais que du côté de ma femme, comme du mien, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle, très souvent, nous nous quittons assez rapidement pour ne pas faire traîner. Mais que de fois j'ai quitté la maison en larmes, je vous le confesse. Mais en chantant en même temps, au volant de ma voiture, en chantant. Et je me suis souvent même pris à chanter tandis que je pleurais dans mon cœur pour avoir laissé mon foyer pendant une semaine, 15 jours, que sais-je. Ça n'est pas facile que de servir Dieu. Nous le disions hier. Il n'est pas du tout facile de prendre les traces du Christ. Pas du tout facile, ça coûte quelque chose. Mais quelle bénédiction dans ces sacrifices, dans la joie que nous rendons au Christ, en nous souvenant que ce qu'il a fait pour nous dépasse, et de loin, tout ce que nous pouvons faire pour lui. J'ai honte parfois de ce que je rends à Christ, comparé à ce qu'il a fait pour moi, mais je le fais de tout mon cœur, et je sais qu'il l'accepte. C'est très peu, mais il l'accepte. Quelle bénédiction, et quelle joie de pouvoir chanter, même quand c'est difficile. Eh bien, Anne a été généreuse, et au moment où elle rendit cet enfant, elle connut une plus grande joie que celle qu'elle a éprouvée au moment où elle reçut cet enfant. La joie de rendre, de donner, il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et ce qui m'étonne aussi chez Anne, c'est qu'en rendant cet enfant à Dieu dans les larmes et dans le chant, elle dit merci. Elle dit merci. Alors qui ici pourrait nous dire pourquoi elle dit merci? Il y a là une logique qui nous dépasse. Généralement, on attend un merci de la part de celui auquel on a donné quelque chose. Hein, à Noël dernier, nous nous sommes fait des cadeaux et puis nous nous sommes dit merci. Mais ici, Anne donne à Dieu son enfant. Elle le lui rend et en le lui rendant, elle dit merci. C'est une logique qui nous échappe. En effet, son cantique est un grand merci, c'est une action de grâce. Anne, au moment où elle rend son fils en disant son grand merci par ce chant, a conscience que si Dieu ne l'avait pas aidé dans ce geste, elle aurait été incapable de l'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle, éprouvant à ce moment précis la grâce de Dieu qui lui a permis de lui rendre cet enfant, elle dit merci. Elle dit merci. Eh bien, dans ce que nous rendons à Dieu de nos mains, de notre cœur, sachons dire aussi merci. On n'a jamais, en quelque sorte, le droit d'attendre de Dieu un quelconque merci. Dans tout ce que nous lui offrons de nous-mêmes, de notre temps, de notre vie, de notre argent, de notre foyer, il faut le lui donner en lui disant merci de cette grâce que tu me fais. Merci. Eh bien oui, des mains qui savent remercier, c'est quelque chose. Hein? Des mains qui savent remercier. Et c'est ainsi que nos mains deviennent alors des mains en bénédiction à Dieu, et j'allais dire aux hommes, des mains qui savent bénir, des mains qui savent prier, des mains aussi qui savent montrer le chemin. Un peu ces mains qu'avait Jean-Baptiste lorsqu'il présenta le Christ, l'agneau de Dieu à Israël. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mes amis. Des mains comme celles de Jean-Baptiste qui savent indiquer le chemin, la route, qui savent montrer le Christ à ceux qui en ont besoin. Puisse le Seigneur nous donner ce genre de mains-là, des mains à son service, des mains aussi qui savent prendre celles des désespérés pour les aider à en sortir. Est-ce que le Christ pourrait se servir de nos mains comme des siennes pour ce monde? Des mains pour Christ. Dans ces temps difficiles que nous avons rappelés hier soir, il est urgent, impératif, de consacrer nos mains au Christ, de les lui abandonner totalement pour qu'elles lui servent, parce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que tous ceux qui n'auront pas reçu le sceau de Dieu sur leurs mains recevront celui de l'Antéchrist. Recevront celui de l'Antéchrist. Le sceau de l'Antéchrist sur leurs mains pour accomplir le mal. Mes amis, rendons les armes. Offrons nos mains au Christ pour qu'il s'en serve dans ce monde à sa gloire. Pour qu'il puisse ici bénir, ici guérir, ici secourir, ici appeler, ici indiquer. Oui, consacrons-lui nos mains et que nos mains soient crucifiées dans les siennes pour ne servir qu'à sa gloire. Dieu le fasse. Nous prions pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.